Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le cadre du programme Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, nous vous invitons tous les jours à 11h à plonger dans le portrait biographique et documentaire d'une femme ou d'un homme d'exception. Entre découvertes, connaissances et émotions, nous nous engageons sur la piste de toutes celles et ceux qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Grandes figures littéraires, grands penseurs ou grands personnages historiques, bienvenue dans toute une vie.
Frédéric Magé, pourquoi Colette s'appelle-t-elle Colette ? Parce que c'est un nom et non pas un prénom, c'est le nom de son père, le capitaine Jules Colette, qui lui a donné son nom et qui, plus tard, s'est imposé à partir de 1923, à partir du blé en herbe, comme sa signature.
Mais pourquoi est-ce qu'elle choisit de ne pas s'appeler de son vrai nom ?
C'est son vrai nom. Elle s'appelle Sidonie Gabrielle Colette. Sidonie, c'est le prénom de sa mère. Gabrielle, c'est donc son vrai prénom, disons. On ne l'appelle jamais d'ailleurs Gabrielle. Quand elle est petite, on l'appelle Gabri, on l'appelle Minéchérie, Bijou tout en or, toutes sortes de surnoms affectueux. Mais on ne l'appelle quasiment jamais Gabrielle. Et très très vite, en fait, on l'appelle Colette. Et lorsque elle aura acquis une célébrité suffisante, elle signera de son seul nom, Colette, et elle signe Colette en 1923, la publication du blé en herbe.
Colette, en grande partie grâce à sa mère, parce que c'est une personne qui l'a toujours poussée à faire ce qu'elle avait envie de faire. Elle n'a jamais jugé le fait que sa fille échoue grâce à son premier mari dans le milieu parisien mondain. Et notamment, elle n'a pas jugé ses amours lesbiennes. Elle a toujours œuvré finalement pour le bonheur de sa fille et elle la mettait en garde contre tout ce qui pouvait l'empêcher de faire son métier d'écrivain.
1er avril 1904. Mine chérie, mais oui, j'ai reçu ton délicieux petit livre. Les quatre dialogues de Bête. Et je l'ai lu vite, vite. Si je ne t'ai pas écrit plus tôt, plutôt de ce que j'en pensais, c'est que toujours quelque ennui m'en a empêché. Le chapitre du feu est très bien traité. Et je m'intéresse beaucoup au pauvre Kiki la Doucette, car on ne m'ôtera pas de l'idée qu'il est mort de chagrin que lui causaient vos infidélités en faveur de Toby Chien. Les chiens sont des bêtes divines, et juste à cause de cela méconnu, il n'y a vraiment que les âmes au-dessus du commun des mortels qui saisissent tout ce qu'il y a de mystérieux dans le caractère des chats. Ton livre est charmant, mais il se pourrait qu'il ne soit pas écrit pour tout le monde.
Je vous promets monts et merveilles, amour toujours, etc. Il me disait avec emphase, j'ai choisi de mourir pour vous. Mourir pour moi, des mots, des phrases, ce que j'ai choisi est moins fou. J'ai choisi de rire de tout. De rire du pire, du meilleur et tout. J'ai choisi de rire, du tiers comme du quart. Des jeux de hasard, des printemps qui passent. Des amours fugaces, des baisers perdus. J'ai choisi de rire, des baisers perdus.
Colette se marie à Henri Gauthier-Villars et ils s'installent tous les deux à Paris. Comment est-ce que vous voyez, Bénédicte Martin, cette découverte par Colette de la capitale ?
Alors au début, je pense qu'elle était assez rétive, pas du tout habituée aux mondanités. Et Willy l'a beaucoup traîné donc, dans le Paris mondain, qui était très effervescent à l'époque, notamment avec les salons du Paris Lesbos. Et en fait, Colette, assez rapidement, s'est sentie comme un poisson dans l'eau. Elle était, je pense, faite pour les bons mots. Et son côté de fille de la campagne, après l'amusement général du milieu parisien, on a vu quelqu'un qui était sensible et oui, qui faisait preuve d'une sensibilité différente, nouvelle, fraîche.
Il n'y a rien de spontané dans l'écriture de Colette. C'est-à-dire, c'est, lorsqu'on dit que c'est un génie spontané, c'est tout à fait mensonger. C'est extraordinairement travaillé. Et cette difficulté d'écrire qu'elle a sans cesse évoquée le prouve. Et je crois que la façon dont elle a aussi construit un personnage de grand écrivain, de plus en plus respecté jusqu'à une sorte de momification, le prouve aussi.
Je pense que Colette a toujours eu un humour très grinçant et très mordant sur son environnement et sur ses pairs. Quand on lit quelquefois sa correspondance, j'ai pas un exemple précis, mais c'est vraiment grinçant. Elle dégomme des écrivains ou des critiques ou des comédiennes ou des maîtresses de Willy. Vraiment, elle dégomme.
Il m'est arrivé de m'ennuyer au théâtre pendant un acte, même pendant deux actes. Plus rarement pendant trois actes, parce qu'à l'ennui, je préférais la fuite. Mais je ne me souviens pas de m'être ennuyée pendant les entr'actes. Mesdames, messieurs, cher public, j'ai accepté, l'imprudence n'ayant pas d'âge, j'ai accepté de porter le poids de deux minutes d'entr'acte parlé, bien entendu. J'ai beaucoup aimé, quand j'étais critique, mes entr'actes muets, mon coin ombreux d'avant-scène, d'où je pouvais me livrer à mon étude préférée, celle du visage humain, que j'ai souvent appelé mon beau paysage, et qui faisait la joie de mes entr'actes immobiles. Je me repaissais de la beauté comme de la laideur humaine, et l'une parfois m'était aussi chère que l'autre. J'ai bonne envie de vous dire, au lieu de m'écouter, oubliez-moi, écoutez le murmure de l'entr'acte, regardez la salle, regardez combien l'épaule d'une femme cherche avec bonheur sa grâce et son approbation dans des regards d'hommes. Entendez ces rires que le texte n'a pas su obtenir, échanger de bouche à oreille des noms que tout Paris connaît et reconnaît. N'ayez donc pas peur de vous divertir devant un rideau baissé. Ce sont là des conseils pervers, n'est-ce pas?
Gosto de te ver ao sol, Leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba.
Et elle n'aime rien tant que au cinéma que les films qu'elle appelle dégagés de l'action romanesque. Alors qu'est-ce que c'est des films dégagés de l'action romanesque en 1920? Eh bien, c'est des films qui vous montrent en ralenti la germination d'un haricot, l'éclosion d'une fleur. Vous savez, on faisait beaucoup de ces films où on accélérait les phénomènes de la nature. Et nous avons là quelque chose de tout à fait significatif, à mon avis, d'un art poétique, où le spectacle compte plus que le récit, le roman au fond, en tant que grand roman, est une chose à laquelle elle se déclare assez étrangère.
Je voudrais pourtant bien que mes modestes causeries ne ressemblent pas exactement à des bulletins météorologiques. C'est la vérité stricte,
que la pluie et le beau temps, comme on dit, tiennent une très grande place dans ma vie. Quand je vous aurai dit, par exemple, qu'un de mes moyens de chauffage consiste, en hiver, à évoquer les canicules passées, quand je vous aurai confessé que par une chance personnelle, je conserve des souvenirs de saison comme je garderais en cave des crus de vin, ou bien en bibliothèque des images colorées et peintes avec soin, il me semble que je n'aurais pas seulement fait acte de bavardage, mais que j'aurais peut-être fourni à d'autres un encouragement à penser un peu autrement, à feuilleter le passé d'une autre manière qu'elles n'ont l'habitude de le faire.
Yannick Reich, Colette, ce n'est pas quelqu'un qui se serait qualifié de philosophe, et en même temps, elle portait en elle une forme de sagesse.
C'est une bonne question. Elle se méfiait des idées générales parce qu'elle pensait qu'on ne pouvait pas apporter de réponse et que c'était dans l'observation de ce qui l'entourait et du présent, du concret, qu'elle pouvait tirer des leçons. Et non pas à travers des traités ou des livres.
C'est ça la sagesse ?
C'est une forme de sagesse. Ne pas chercher trop loin un art de vivre. Pour Colette, son art de vivre est vraiment vivre au présent, s'adapter au présent. Ça, je crois que c'est un point très très important chez elle.
Elle vous a appris des choses ?
Oui, elle m'a appris qu'on pouvait parler du plaisir en toute liberté et en parler avec pudeur. Et je crois que c'est ce qui gêne beaucoup de lecteurs qui entrent dans l'œuvre de Colette. On croit qu'on va trouver toutes sortes de détails croustillants. On a des images de Colette un peu... C'est un paradoxe d'ailleurs. On imagine Colette légère. Or, Colette revendique le plaisir, mais un plaisir très large. C'est pas un plaisir simplement lié à la sexualité, qu'elle n'exclut pas, bien entendu. Mais c'est un plaisir... des sens, un plaisir, bien sûr, des yeux, de l'odorat, du toucher, mais encore plus que tout, un plaisir de la bouche, hein, des mots qu'elle va prononcer, des mots qu'elle va écrire, même écrire pour elle est déjà un travail de jouissance.
Je vais vous lire un extrait de La Chatte, un roman de 1933 de Colette qui raconte l'histoire de l'amour passionné d'un jeune homme pour sa chatte alors même qu'il est fiancé.
Guy Ducret.
Cet amour pour cette chatte dépasse la parole et se trame dans le silence. Voici sa fiancée dans le jardin qui l'appelle, lui. « Où es-tu, Alain ?» Camille l'appelait du haut du perron, mais par caprice, il s'abstint de répondre et gagna les ténèbres plus sûres en tâtant du pied le bord de la pelouse tondue. Au haut du ciel siégeait une lune voilée, agrandie par la brume des premières journées tièdes. Un seul arbre, un peuplier à feuilles jaunes vernissées, recueillait la clarté lunaire et dégouttait d'autant de lueurs qu'une cascade. Un reflet d'argent s'élança d'un massif, coula comme un poisson contre les jambes d'Alain. « Ah, te voilà ça, je te cherche. Pourquoi n'es-tu pas venu à table ce soir ?»«
Mrouin !» répondit la chatte. « Mrouin !»«
Comment, mrouin ? Pourquoi mrouin ?
Est-ce une manière de parler ?»
Il se trame ici une complicité que Colette évoque souvent et qui est la sienne propre à l'égard de la bête. « Je préférerais les bêtes, dit-elle toujours, dans une part secrète de moi-même. » Si l'on va au cœur de ce qui intéresse Colette, l'animal est dans la réserve. Ou, pour utiliser un autre terme qui apparaît dans l'extrait qu'on a cité, dans l'abstention. Colette est souvent... Ça paraît étrange de le dire pour quelqu'un qui a écrit 4 volume de Pléiade, dans la réserve et dans l'abstention. Il y a une poétique du silence chez Colette, et le silence est du côté du pur pour elle, alors que très souvent la parole est du côté de l'impur. Et la bête a cette pureté expressive du silence qui se dégage de toute parole. Et je pense que c'est peut-être là que Colette est le plus proche de son passé de danseuse.
Oui, parce qu'elle aimait danser, Colette. Elle aimait se montrer.
Yannick Reich.
Se mettre en scène. Je crois qu'elle se libérait quelque part de ce que la vie au quotidien ne lui permettait pas de faire. Et
d'ailleurs, elle dansait assez dénudée.
Oui, elle a dansé chez Nathalie Barnet. Elle a dansé dans les fêtes qui se faisaient dans les réunions saphiques. Et puis, elle a dansé, bien sûr, avec la chair, avec d'autres pantomimes. Et dénudée ne la gênait pas, parce qu'elle était... elle pensait qu'il fallait libérer le corps. C'est encore l'époque où on porte des corsets. Et ce qui se montrait au Music Hall, c'était en fait des corps-objets qui attisaient le regard concupiscent des spectateurs. Je dis toujours qu'avec elle, le corps devient sujet. Elle le dit, moi c'est mon corps qui pense. C'est pas une phrase banale lorsqu'elle dit cela, parce que elle fait preuve de ce courant qui se développe, une sorte d'anti-intellectualisme, qui montre qu'il y a d'autres façons d'appréhender le réel et le monde à travers le corps, justement. C'est pas pour rien qu'elle s'est intéressée, donc, à ce salon d'esthétique qu'elle a ouvert ensuite.
On me trouve un minois mieux que joli, du moins on me le dit, et ce compliment me ravit. Il paraît que j'ai un petit accent, gentil, drôle et troublant, qui vaut un regard caressant. J'ai l'air de voir la vie en rose, mais mon cœur rêve d'autre chose. Aimer sincèrement de mon cœur tendre, celui qui pourrait me comprendre, et s'il le fallait me défendre.
Il faut certaines, je dirais pas du courage, peut-être plus aujourd'hui, pour aller à Colette, mais enfin, il faut une certaine indépendance d'esprit, parce que quand moi j'ai découvert Colette, par exemple, on m'a fait comprendre tout de même que je m'intéressais à Mallarmé à l'époque aussi, que c'était quand même un peu mieux. René Char, c'était bien aussi, mais enfin, Colette, il fallait quand même passer à des choses plus sérieuses. Et il faut un certain entêtement pour défendre cette œuvre. Encore aujourd'hui, hein, puisque les préjugés de la mémère à chat, de la mièvrerie, sont des choses qu'on rencontre encore lorsqu'on discute, mais ce sont des gens qui n'ont pas lu.
Alors qu'il n'y a vraiment aucune mièvrerie.
Ah non, il n'y a aucune mièvrerie. Et souvent, on a une image complètement faussée. Je pense au Blé en herbe, par exemple. En fait, les gens ont une image du blé en herbe qui est liée au film de Claude Dantalara avec Edwige Feuillère en 54. Mais le blé en herbe, l'histoire n'est pas du tout, ce n'est pas l'initiation sensuelle de Phil, jeune homme, par la dame en blanc, beaucoup plus âgée. C'est un élément du récit, mais le véritable enjeu, qui est un enjeu qu'on retrouve dans beaucoup d'autres romans de Colette, c'est comment sortir de l'adolescence, comment sortir du monde de l'enfance et accepter les compromis du monde des adultes. Comment accepter le temps qui passe? Ça, c'est une problématique qu'on retrouve dans un autre très beau récit de Colette, qui est La Chatte, hein, où le personnage d'Alain ne peut pas sortir de son enfance, qui est symbolisée par la chatte, ça. Et quand je vous disais tout à l'heure cette fascination pour l'enfance, pour le monde de l'enfance, il va de pair avec un rejet d'une certaine forme de la vie adulte, qui est souvent pour elle une vie bourgeoise, une vie installée où on doit accepter les faux-semblants, les compromis, et ça ne supporte pas.
Adieu Paris, je me retire à la campagne, l'ennui me gagne, assez de champagne. J'en ai soupé, d'aller souper avec des poules, et de rentrer comme si le pavé faisait de la houle. Adieu Paris, car j'en ai par-dessus la tête, faire la fête, oh que ça m'embête. Je vais me mettre au vert, vivre comme les bêtes, me coucher tôt et ne plus boire que de l'eau.
Le pire pour une arthritique et à peu près impotente de ma sorte, ça n'est certes pas le déplacement si on l'opère en automobile. Le pire, c'est de faire 10 mètres à pied au bord du jardin, c'est la nuit rompue par les franges et soudaines et mordantes douleurs. Le pire, c'est l'oubli de ces mêmes douleurs et le geste étourdi et jeune et vif, mais oui, je vous assure. Ce geste par lequel je prétends ramasser vite la canne, atteindre le livre, monter sur une échelle, oh, jeunesse invétérée, agilité devenue purement mentale, et châtiée dès qu'elle tire sur sa laisse, les escaliers, descendus dans l'humiliation et la ruse, enfin de chausser un gant, enfin de fouiller son sac pour n'être pas vu pendant qu'on descend, qu'on monte, et puis, quand c'est fini, je ris de moi. Je me trouve ridicule avec mes petitesses. Mais mettez-moi dans une voiture, un coussin ici et un coussin là, et roulez. Vous n'entendrez plus parler de moi pendant, je sais pas moi, un bon nombre de kilomètres.
Je vous lis un morceau de la fin de Chérie, où la fantasmagorie du voyage en voiture, une voiture décapotable, bien sûr, on est en 1926, fait tout un plaisir du texte que je voudrais vous faire entendre. Chérie n'oublia jamais leur retour nocturne. Le rouge triste qui s'attarda longtemps sur l'ouest, l'odeur d'herbage, les papillons plumeux prisonniers dans le rayon des phares. Ils conduisaient prudemment. L'air frais de la course devenait, quand ils ralentissaient au tournant, un air chaud. Sa compagne a un peu peur qu'il aille trop vite et Colette reprend. Il avança moins vite et il s'amusa des rayons brisés, des zigzags d'or et des plumes de paon qui, pendant quelques instants, dansèrent autour des lanternes dans les larmes qui emplissaient ses yeux. Il y a ici une façon de prendre en compte, au moment où le cinéma éclate dans le monde moderne, de prendre en compte les fantasmagories visuelles, jeux de lumière, éclats de rayons, que la machine moderne peut donner et à laquelle, au fond, Colette est extrêmement sensible et qu'elle parvient à restituer avec beaucoup d'art.
J'ai choisi de rire de tout. De rire du pire, du meilleur et tout. J'ai choisi de rire, du tiers comme du quart. Des jeux de hasard, des printemps qui passent. Des amours fugaces, des mots éperdus. J'ai choisi de rire, des baisers perdus. Des espoirs déçus, des promesses folles. Des vaines paroles. Des amants jaloux, j'ai choisi de rire de tout.
Où en est Colette dans sa vie au moment où elle quitte Willy, son premier mari, Frédéric Maget?
Au moment où elle quitte Willy, on est donc... alors, il faudrait s'entendre sur le moment où elle quitte. Elle le quitte une première fois en 1906, au moment où elle commence sa relation avec Mathilde de Morny, donc Missy, avec qui elle va vivre 5 ans. Et elle le quitte définitivement au moment du divorce en 1910. Le divorce est prononcé en 1910. À ce moment-là, en 1910, Colette est alors au sommet de sa carrière d'actrice de music-hall, puisqu'elle... est en tournée avec La Chair en particulier, qui est ce mimodrame dans lequel Colette découvre un sein nu, qui fera dire à Maurice Chevalier « Elle était belle, elle était belle, elle était belle ». Et donc, elle est à ce moment de célébrité et elle rencontre, quelques mois plus tard, Henri de Jouvenel. Et là, ça va être véritablement un changement pour elle, parce qu'elle entre au Matin, qui est alors un des 4 plus grands journaux de l'époque. Elle va devenir journaliste reporter et elle épouse Henri de Jouvenel, devient, comme elle se plaît à le dire, baronne, et rentre dans un autre milieu qui n'est plus du tout celui des Cafcons, c'est celui du music-hall, qui est plutôt celui de la politique, puisque Henri de Jouvenel est certes rédacteur en chef, mais se rêve déjà un avenir politique qu'il aura après la Première Guerre mondiale. Donc c'est un changement. Et je crois que c'est une période importante dans la vie de Colette parce que c'est une période de métamorphose. On est frappé de voir que pendant les années 10, c'est-à-dire de 1910, publication de La Vagabonde, qui est finalement une sorte d'adieu à l'univers du music hall, jusqu'en 1918-19, enfin jusqu'en 1920, jusqu'à la publication de Chéri, elle ne publie rien. Plus exactement, elle publie des livres, mais qui sont des reprises de textes qu'elle a publiés dans la presse. Et je pense que c'est une période de métamorphose. On voit, à partir de 1920, à partir de la publication de Chéri, une transformation dans l'écrivain. On passe à autre chose. Et ça, je crois que c'est pendant ces 10 ans qu'elle a pu mûrir ce nouvel style et qu'elle va devenir vraiment la grande Colette, puisque les années 20, c'est la dizaine des chefs-d'œuvre, hein, puisqu'on a Chéri, La fin de Chéri, La maison de Claudine, Sido, La naissance du jour, des textes qui sont de véritables chefs-d'œuvre de notre littérature.
Alors, avec son deuxième mari, Henri de Jouvenel, on a l'impression qu'elle prend un tournant un peu vers la respectabilité.
Oui, tout d'un coup, elle se retrouve propriétaire de château, elle a une particule, elle a un enfant aussi.
Donc c'est un peu une nouvelle expérience, on a l'impression qu'elle veut tout tester, et là elle teste la famille, la respectabilité, être mère.
Oui, je pense que donc elle a divorcé de Willy, elle a eu plusieurs années donc de célibat, même si elle entretenait une relation avec Missy, mais l'arrivée de Jouvenel dans sa vie, je pense qu'elle l'a vu comme un repos et comme un réconfort, quelque chose qui pouvait l'aider à se construire réellement en tant qu'écrivain.
Frédéric Maget, est-ce que Colette fait partie du monde littéraire, des cercles littéraires ?
Alors là, non. Évidemment, il faut toujours préciser, elle s'est tenue à l'écart de toutes les avant-gardes littéraires, et il y en a eu beaucoup dans la première moitié du XXe siècle. Ça ne l'intéressait pas.
Pourquoi ?
Parce que c'était un artisan de la littérature et elle se posait pas de questions, c'est-à-dire c'était pas une théoricienne de la littérature elle la faisait, donc elle n'était pas une femme d'école, elle aurait absolument pas supporté ça.
Mais elle lisait les autres quand même, les écrivains ?
Elle lisait énormément les autres, elle a été pendant un temps directrice de la Ligue littéraire du matin, donc elle devait publier les auteurs de l'époque, dont parfois certains surréalistes raccrochés, comme Philippe Soupeau par exemple. Elle a été directrice d'une collection chez Ferenczi qui s'appelait la collection Colette. Donc elle lisait beaucoup, puis elle a été, après la guerre, au jury Goncourt. Donc oui, elle lisait beaucoup les autres, mais je ne crois pas que ça l'incitait à participer au débat littéraire qui lui était absolument étranger. Alors après, sur la question des cercles, je ne sais pas. Elle a fréquenté beaucoup d'écrivains qui ont été parfois ses amis. Je vais parler de Carco, on pourrait parler de Fargue, on pourrait parler de Proust, on pourrait parler de beaucoup d'autres. Mais ce n'était pas des cercles, c'était des amis. Je dirais que les cercles littéraires croisaient Colette, mais qu'elle se tenait à l'écart. Je parlais de l'existentialisme à l'instant. Sartre et Simone de Beauvoir vont voir Colette et aiment Colette. Simone de Beauvoir, le deuxième sexe, vous savez, cite un certain nombre d'auteurs à l'appui de sa démonstration, et Colette est l'auteur le plus cité. Donc, elle a l'admiration de ses écrivains, mais néanmoins, là, en toute indépendance. Et je crois que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle peut retrouver une forme de modernité avec tous les guillemets qu'il faut mettre à ce qualificatif, parce que justement, elle a été à l'écart des grands mouvements. Mais ça lui a quand même coûté, je dirais, une forme de reconnaissance universitaire, puisqu'évidemment, quand on doit caser Colette dans La Gare des Michards ou dans un manuel scolaire, on est bien embêté.
La guerre, Guy Ducret, est-ce que c'est un thème pour Colette et comment est-ce qu'elle va traverser finalement ces deux guerres, la première et la seconde ?
Alors, la guerre est un thème de journalisme. La guerre de 14-18 est un thème de journalisme et est un thème très intéressant parce que on a, grâce à elle, une vision de l'arrière. Non qu'elle n'ait pas voulu aller, elle est allée au front, elle a fait des reportages. Mais ce qui est passionnant pour la guerre de 14-18, c'est cette vision de l'arrière. Notamment, je pense à un texte tout à fait étonnant d'un accident de voiture à Paris pendant la guerre et aussitôt un attroupement de gens autour du conducteur fautif qui sort de sa voiture un peu confus et que l'on découvre étranger. Et aussitôt, il y a une sorte de méfiance face à l'étranger, il est un espion, et elle arrive à camper cette scène qui apparemment n'a rien de la boucherie des tranchées et qui pourtant restitue avec une acuité tout à fait remarquable l'atmosphère d'un Paris de 14-18.
Que fait-elle pendant la Seconde Guerre mondiale ? Elle part un petit peu en province et puis finalement elle s'ennuie trop en province, alors elle revient à Paris même si c'est plus dangereux.
Alors il y a deux choses. Pendant l'occupation, puisqu'on parle surtout de cela, d'abord elle doit continuer à vivre. Donc elle doit continuer à écrire. Ce qui explique en particulier son retour à Paris. Bon, elle descend dans un premier temps en Corrèze, elle va chez sa fille à Curemonde, mais elle y est très mal. Elle décide qu'elle ne peut vraiment pas rester chez sa fille qui habite un petit logis à côté de château en ruine. Ça n'est pas du tout pour elle. Elle remonte par Lyon et là, elle remonte à Paris. Là, elle travaille. Son mari, qui est juif, est arrêté, est envoyé au camp de Compiègne. C'est pour elle une atrocité. Et elle va se battre pour le faire libérer, user de toutes ses influences, de tout son talent littéraire, parce qu'il faut lire les lettres qu'elle écrit à ce moment-là pour essayer de convaincre de libérer son mari, et elle va y arriver, et là, elle se fait discrète. À ce moment-là, elle se fait discrète, elle continue à produire un petit peu, mais jusqu'à la fin de la guerre, elle n'écrit vraiment quasiment plus.
Au moment de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, d'une dame entre 69 et 75 ans, paralysée par l'arthrite au Palais Royal. Et ce lieu et sa paralysie déterminent une forme d'observation de la guerre. C'est-à-dire que c'est à nouveau une observation par l'arrière qui est très intéressante aussi, à titre documentaire, mais bien au-delà, bien entendu, parce que lorsqu'on parle du documentaire, c'est toujours le documentaire tel qu'il est restauré par un extraordinaire écrivain capable de le pousser à sa pointe. Et il y a notamment des choses sur l'alimentaire, sur la lutte pour trouver de bonnes choses à manger encore, Dieu sait que c'était important pour Colette, qui, là aussi, restitue un univers de privation. Je pense à un texte extraordinaire sur les oranges qui est dans Flore et Pomone. Évidemment, en 39-45, il n'y a plus personne n'arrive à avoir des oranges à Paris. Et il y a une rêverie poétique sur toutes les sortes d'oranges, la maltaise, la blonde, qui sont une espèce de rêverie mélancolique sur tout ce dont on a été privé et qui est tout à fait passionnant.
Quand on lit les textes qu'elle a publiés dans le journal Marie-Claire, par exemple, elle donne des conseils aux femmes sur la façon de s'en sortir pendant la période de guerre. Comment faire la cuisine quand on n'a rien ? Comment s'occuper des siens quand on n'a plus accès à ceci, ceci, ceci ? Donc je crois qu'elle était attentive à ça, qu'elle était attentive à la détresse des gens, mais il faut bien aussi se souvenir que c'est une vieille dame pendant la guerre. C'est une vieille dame qui est déjà touchée par l'arthrose, donc déjà en train d'être immobilisée. Elle n'est pas en position d'être dans l'action. Et puis, de toute façon, elle n'a jamais été dans l'action politique.
Moi, je me balance parmi tous vos désirs, vos médisances. Moi, je m'en balance. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Car je m'en balance. Je m'en balance. Je me balance. Moi, je me balance. Au soleil de minuit, de mes nuits blanches. Moi, je me balance. Chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis.
C'est une besogneuse, Colette. Une grosse besogneuse. Bon, d'ailleurs, bon, ça a été dit, hein, on la compare à une abeille qui fourre son nez partout. Mais en même temps, derrière ce travail, elle savait, elle dit une fois, à un moment, elle dit « Le visage humain a toujours été mon seul paysage ou mon vrai paysage. » Et je crois qu'il y a chez Colette, on l'imagine égoïste, on l'imagine... peu intéressé à l'autre, peu ouverte sur les autres. Il y a vraiment chez Colette une curiosité extraordinaire de l'autre, à travers sa façon de s'habiller, à travers sa façon de vivre, à travers la création. Autrui, l'autre, est un sujet pour elle de découverte, d'émerveillement. Elle ne se ferme pas du tout à l'idée d'une découverte continuelle de l'autre.
Souvent pour Colette, je me suis rendu compte qu'on avait tendance à la juger d'un point de vue moral. D'ailleurs, je ne sais pas tellement de quel point de vue moral. On dit qu'elle a été égoïste, qu'elle a abandonné un certain nombre de personnes. Je me demande d'où est-ce qu'on se place pour pouvoir faire ces jugements. En réalité, on voit bien que dans la vie courante, les relations, il n'y avait rien de plus compliqué que les relations amoureuses, qu'elles soient dans un cadre familial ou dans un cadre plus intime. Les relations entre Colette et sa fille sont des relations extrêmement complexes. Colette a donné à sa fille le prénom qui était son nom. Colette, disons-le tout de suite, n'était pas faite pour la maternité. Ça ne signifie pas qu'elle n'a pas été heureuse d'être mère et qu'elle n'a pas aimé sa fille, mais la maternité n'était pas quelque chose de naturel pour elle. Et quand Colette parle d'ailleurs de sa maternité dans ses lettres, bon, on l'attend, la fille, on sent bien que ça l'embarrasse. Elle est à l'époque, elle est journaliste, elle a des reportages à faire et ça l'embête drôlement. Alors après, quand la petite Colette va naître, elle va être fascinée par le petit nourrisson parce que Colette a toujours été fascinée par ce qu'il cherche à vivre en fait. Hein. Elle a toujours dit qu'elle était fascinée par les éclosions. Celle d'une fleur comme celle d'un enfant, donc elle est fascinée par ce petit animal, elle sera toujours fascinée par les enfants d'ailleurs, mais quand il commence à grandir, ça commence à devenir un poids, et là, il faut quand même le dire, Colette va abandonner d'une certaine façon sa fille, elle va l'écarter d'elle, la mettre en pension à Versailles, etc., et les deux femmes ne se retrouveront qu'un peu plus tard.
Things like daffodils and peaceful sheep on clovered hills, the morning song of weepoowills, and you'll see the face that I love. Think of Fanny Oates Sky getting ready to cry. Down comes the rain, but it's raining confetti.
Gérard Bonnal. Colette a beau être journaliste, ou du moins travailler pour un journal, elle a beau être mariée avec Henri de Jouvenel, qui est un homme politique, la politique ne l'intéresse absolument pas.
Pas beaucoup, non. Non, je crois qu'on peut, pas dire grand. Dès qu'on parle de politique, il n'y a plus rien à dire. Ce qu'elle en dit, c'est sur la bande, quoi. Si j'ose dire, c'est dans un petit livre qui se petit livre par la taille, mais pas par l'intérêt, qui s'appelle 369, où elle évoque une de ses maisons, où elle habitait avec Henri de Jouvenel, où elle parle de déjeuner politique qui avait lieu chez elle. Et elle dit bien que... On comprend bien qu'elle ne participe pas vraiment à la conversation et que, sitôt le café servi, elle remonte dans son bureau avec son chien, sa chienne plutôt, s'occuper de ses propres affaires. Simplement, elle raconte, c'est intéressant, elle en a connu beaucoup d'hommes politiques, avec qui elle est très amie avec Édouard Herriot, Maginot. Par son mari, elle les a tous connus, elle les recevait chez elle, elle est dans les soirées où elle les rencontrait. Et simplement, elle en a fait des portraits. Mais ces portraits sont rarement en compte les idées politiques de la personne. C'est l'aspect extérieur, ce qu'il est. Par exemple, pour Édouard Herriot, qui avait, c'est formidable cette image, qui a des cheveux très frisés et très serrés, elle parle du bonnet d'Astrakhan de ses cheveux. C'est extraordinaire comme image. Voyez, et c'est comme ça qu'elle les montre. André Maginot, on ne parle pas du tout de la ligne Maginot, mais qui est pourtant une idée d'entre les deux guerres. Mais elle nous dit que c'est André Maginot qui lui a suggéré d'ouvrir un jour un institut de beauté, par exemple, vous voyez. Elle parle de la blessure de guerre de Maginot. Quand elle parle d'Albert Lebrun, elle dit qu'elle l'a connu, pendant la Première Guerre mondiale, quand elle allait retrouver son mari en cachette, parce que c'était interdit, près du front.
En fait, la politique, c'est ennuyeux, et tout ce qui est ennuyeux sort du champ de perception de Colette.
Bah, elle doit penser que ce n'est pas la vie. Et elle n'a pas tort, sans doute.
Je me rappelle encore la couleur de tes yeux. Héros est un rocher dans les Cyclades.
Mais parmi ces fréquentations, l'être humain, le plaisir éventuellement de la rencontre de cet être humain-là, va quand même primer sur les idées politiques de la personne qu'elle a en face d'elle. Et ça, c'est non seulement pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ça a été une constante de prendre les personnes pour ce qu'elles sont avant de prendre les personnes pour ce qu'elles pensent.
Oui, je vous l'ai dit, la primauté du vivant sur la pensée, ça c'est certain. Et puis, puisque vous parlez de fréquentation, Colette dit qu'elle n'a jamais fréquenté que des gens finalement normaux. Ce qui n'est pas vrai, elle a rencontré des gens extraordinaires en réalité, de Marcel Proust à Jean Cocteau, à Claude Debussy, enfin on pourra en citer beaucoup. Mais je crois que les gens qu'elle préférait, c'était des gens qu'on qualifierait aujourd'hui de marginaux. Ça fait partie de ces classements qu'on n'aime pas. Elle aimait les gens qui la faisaient rire, qu'on trouverait peut-être parfois un peu grossier, un peu direct. Mais elle aimait une sorte de rudesse, oui, j'allais dire de rusticité. Alors je suis contre ça, mais il y a quelque chose. Elle aime quelque chose de terrien chez les gens, de franc. Je crois qu'elle n'aime pas les gens qui ont la pensée de derrière la tête. Colette a dit à plusieurs reprises son plus grand mépris pour les suffragettes. Qu'il fallait leur donner le fouet, qu'il fallait les mettre au harem, etc. Je crois que déjà l'outrance du propos montrait déjà le côté provocateur de Colette.
Second degré peut-être ?
Second degré, non, je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas de second degré, mais en tout cas provocation. Hein, aller contre les idées, contre les idées reçues. Puis je crois qu'il y avait ce côté qu'elle tenait sa mère, je dirais un petit peu anarchiste, un petit peu. Voilà. Néanmoins, Colette est un des écrivains qui a. Plus, peut-être pas le mieux, mais en tout cas le plus parler des femmes, et qui a montré dans son œuvre les différentes étapes de la libération des femmes. Elles boursicotent, elles sont plus libres, elles ont les cheveux courts, etc. Les articles qu'elle publie dans la presse montrent aussi cela, et elle encourage les femmes, par son exemple, à obtenir l'indépendance à l'égard des autres. Maintenant, ce n'était pas une féministe, parce que ce n'était pas une théoricienne. Mais je dirais qu'elle est proche d'un féminisme, je dirais, essentiel, parce qu'un féminisme au quotidien, en fait. Je ne suis pas féministe, mais je me libère moi-même au quotidien.
Colette a une façon de parler des hommes très, très, très amusante. Très, enfin, amusante. Plus qu'amusante. C'est-à-dire que elle est le premier écrivain femme à considérer les hommes comme les femmes, les hommes d'ordinaire considèrent les femmes dans leurs livres. C'est-à-dire comme objet. L'homme est un objet dans l'œuvre de Colette. Alors que des écrivains très, très avancés comme Madame de Staël ou Georges Sand, pour ne citer qu'elles, ont toujours adopté ce point de vue féminin de mettre la femme en objet par rapport à l'homme. Chez Colette, vous remarquerez, l'homme est toujours un objet.
Et la beauté est importante?
Et la beauté est importante chez un homme autant que pour un homme la beauté chez une femme. Et puis, c'est pas pour rien que souvent, tous ces hommes, elle en parle au féminin. Willy, c'est la doucette. Jouvenel, c'est Sidi ou la sultane. Maurice Goutquet, c'est une peau de satin. Vous voyez?
Et elle aime bien travestir aussi les hommes. Dans le début de Chéri, la première scène, c'est son chéri. Amant, son jeune chéri, qui a
un collier de perles. Qui met un collier de perles, oui. À rebours, les femmes sont des chic types. Elle dit à une femme, mon chéri. Vous voyez, c'est tout est comme ça.
Et pourquoi alors?
Je sais pas. C'est une alors maintenant les gender studies vous expliquerez ça hein, beaucoup mieux que moi. Mais c'est effectivement une manière. Mais si on peut revenir dans la, il n'y a qu'une bête hein, finalement. Une chienne c'est un chien et une chatte un chat. Quand vous les voyez, vous dites le chien. Vous savez pas si c'est un chien ou une chienne. Et peut-être que dans l'imaginaire profond de Colette, il n'y a pas de différenciation entre les sexes. La créature avant le choix de l'ordre auquel on va appartenir, animal, plante ou bête, et avant le sexe.
Night and day, you are the one. Only you beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are, I think of you. Night and day, day and night, why is it so?
On a l'impression que elle avait essentiellement peur de s'ennuyer dans la vie, Colette.
Alors ça, elle ne s'est jamais ennuyée. Elle dit d'ailleurs, je me serais bien amusée en chemin. Elle s'est beaucoup amusée, elle a fait énormément de choses. Est-ce qu'elle a fait tout ça pour éviter l'ennui? Je ne pense pas. Alors, anachroniquement, je dirais que c'est plus tellement le mal du siècle. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a tout de même chez Colette une ligne plus sombre qu'on retrouve dans ses textes. Je ne dirais pas l'angoisse de la solitude, puisque parfois elle l'a cherchée, elle l'a goûtée, mais je crois qu'il y avait quelque chose, effectivement, d'un peu triste, de tragique, qui traverse l'œuvre. On n'a jamais suffisamment dit que tous les romans d'amour de Colette, quasiment tous, finissent mal. Dans les romans de Colette, il y a énormément de suicides, de renoncements, de séparations, alors que on pourrait s'attendre à autre chose, donc peut-être que, effectivement, le fait de s'entourer toujours d'amis, d'avoir des amis proches, comme elle en a eu, Marguerite Moreno, Germaine Maumont, Hélène Picard et d'autres, Francis Carco, était une façon d'échapper à cette ligne triste, oui, peut-être.
Il y a un côté Sagan un peu chez Colette.
Alors vous savez que Bonjour Tristesse paraît en 1954, l'année où Colette va disparaître. Il y a sans doute beaucoup de parallèles à faire entre les deux femmes. Sagan avait envoyé son livre à Colette. Il existe un exemplaire avec une dédicace de Sagan à Colette, puisque c'était quelques mois avant sa disparition. Et Sagan devait même jouer le rôle de Colette dans un film de Chabrol. Finalement, ça ne s'est pas fait. Oui, les deux femmes, probablement, se seraient beaucoup appréciées, mais l'époque avait complètement différente. C'est-à-dire 1954 n'est pas 1900.
Elle grelottait légèrement et remonta la glace de l'automobile. La vue de sa maison nette, de sa chambre rose et de son boudoir, trop meublé et fleuri, la réconfortèrent. Vite, Rose, une flambée dans ma chambre, la boule de lit dans le lit tout de suite, et pour dîner, une grande tasse de chocolat bien réduit, un jaune d'œuf battu dedans, et des rôtis, du raisin, vite, mon petit, je gèle. couchée, elle serra les dents et les empêcha de claquer. La chaleur du lit détendit ses muscles contractés, mais elle ne s'abandonna point encore et le livre des comptes du chauffeur Philibert l'occupa jusqu'au chocolat qu'elle but bouillant et mousseux. Elle choisit un à un les grains de chasselas en balançant la grappe attachée à son bois, une longue grappe d'ambre vert devant la lumière. Puis, elle éteignit sa lampe de chevet, s'étendit à sa mode favorite, bien à plat sur le dos et se laissa aller. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qu'elle a ? Eh bien, elle a, tout à coup, le sentiment d'être vieille, ce qu'elle n'avait jamais eu. Et ce sentiment lui provoque quelque chose que Colette évoque extraordinairement souvent, ce saisissement d'un étiolement contre lequel l'écrivain lutte et luttera jusqu'à son dernier jour en proclamant qu'elle veut éclore, toujours renaître. Et le vieillir est évidemment l'antithèse de ce renaître qu'elle appelle constamment de ses voeux.
La mélancolie de la vieillesse, on l'entend parfois chez Colette, comme dans cette archive de 1948, dans laquelle elle parle d'une jeune fille qui vient la voir, parfois, dans son appartement du Palais Royal.
J'aime son esprit contradicteur, sa présence douce acide, ses rébellions de branches printanières. Il me semble que si l'homme, enfin la main, la bouche, le corps d'un homme l'avait froissée, tout le monde s'en apercevrait, et moi la première, bien entendu. Est-ce que j'étais ainsi à son âge ? Je ne me souviens pas bien. Mais je me rappelle avec force la répugnance dont je frémissais au frôler des vieillards d'autrefois. L'élan sauvage qui, la visite finie, m'emportait loin de Madame de Canalven, de Madame Bourneuf. C'étaient des octogénaires que leur âge et leurs impotences tenaient d'une prise solide à leurs fenêtres sur le bord usé de leur nid de vieille dame. J'échappais à la petite main paralysée, recourbée en griffes, qui m'offrait des sucres d'orge de Vichy. Il fallait toute l'autorité de Sido, ma mère, pour que je consentisse à ramasser auprès des pieds insensibles, chaussés de gros feutres, un foulard en soie des Indes que je haïssais sans savoir pourquoi. Il y avait aussi une certaine tasse et un certain coussin en crin noir tissé. Ah, c'est à moi et non à Catherine qu'une voix murmurait. Il faut être très gentil avec Madame Bourneuf. Mais je n'avais Dieu que pour des détails qui me rendaient sauvage. Ah, Pauline, donnez-moi ma robe de chambre bleue, la neuve. Oui, celle-là, avec le foulard rose. Et puis, mettez le vaporisateur ici. Et puis le vase en cyclamène, celui qui est en fleurs. Oui, mettez-le là, tout près, sur ma table. Et puis, donnez-moi ma boîte à poudre. Puis, il fallait me donner tout ça bien plus tôt, voyons, au moment où cette petite est entrée. Je suis sûre que je suis à faire peur.
Gérard Bonnal, c'est au cinéma que Colette a eu la révélation du sens profond de sa vie en voyant un animal sur l'écran.
Oui, c'était un animal ou une plante, une plante qui était en train de se venir à la vie. Vous savez, ces films en accéléré où on voit une germination en quelques secondes. Et Colette était dans cette salle, regardait ce documentaire, elle était avec son mari, le dernier, Maurice Goutquet, et c'est lui qui le raconte. Hein. Maurice Goutquet, elle saisit le bras de Maurice Goutquet, et elle lui dit « Maurice, il n'y a qu'une bête ». Et ça, je trouve que c'est Colette elle-même, sans le vouloir, qui a donné l'ordre profond de son œuvre. Et effectivement, dans l'œuvre de Colette, il n'y a qu'une bête, qu'il s'agisse d'un être humain, d'un animal, d'une plante. Toutes ces créatures vivantes participent du même mystère, on va dire, mais surtout ont toutes la même valeur, ce qui est très important. C'est sans doute le seul écrivain qui nous ait montré à quel point, dans la création, tout se vaut, si j'ose dire.
La rue Colette.
Jean Cocteau.
C'est ce que j'aimerais que les étrangers puissent lire en tournant l'angle des rues de Valois et de Montpensier, en découvrant cette chicane de marches, de garde-fous, de grilles, de lanternes, de colonnes et d'arcades, dont l'enchevêtrement compose l'étrange ville chinoise où Madame Colette m'a délégué ses pouvoirs. Seulement, Beaujolais est un nom qui ne devait pas déplaire à la gourmandise d'une cliente du Véfour, d'une collègue de Kurnonski, et nous nous contenterons, jusqu'à nouvel ordre, d'une plaque commémorative signalant à quelque culte un de ces pèlerinages auxquels on a substitué photographiquement, cinématographiquement ou gramophoniquement, je ne sais pas comment ça dit, gramophoniquement, des conserves et des reflets. Un beau jour, lorsque la dégravitation aura démodé notre science et nos machines, on sourira de notre époque comme de celle de Claudine. Il est même probable, en face des voyageurs de l'espace, en route vers la Lune, et pareil aux premiers automobilistes couverts de lunettes et de peau de bique, se livrant au vertige du 30 à l'heure, qu'on dise « C'était la belle époque, l'époque des 1000 chansons et de la banlieue des étoiles. » Alors, on ouvrira pieusement l'herbier adorable et admirable où Madame Colette conserve le secret des simples, de l'herbe au chat, de l'herbe à la magicienne, de l'herbe au gueux, de l'herbe d'amour et du blé en herbe.
J'ai fini, chers auditeurs. Je restitue aux comédiens la parole usurpée et je vous salue dans le meilleur style speaker que je sache. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, messieurs.
C'était Une vie, une œuvre, aujourd'hui consacrée à l'écrivain Colette, 1873-1954. Un grand merci à tous les intervenants, Frédéric Magé, président de la Société des Amis de Colette, Guy Ducré, auteur de l'abécédaire Colette, Gérard Bonal, écrivain et spécialiste de Colette, Yannick Reich, universitaire, ainsi que l'écrivain Bénédicte Martin, a signalé la parution récente du cahier de Lerne consacré à Colette et co-dirigé par Frédéric Magé et Gérard Bonal. Notre attaché de production, c'est, vous le savez, Laurence Genepin, Alina Sophie Gillery, prise de son Fabien Capel, Anil Bosselet, mixage Bernard Laniel. C'était une émission de Mathieu Garrigou-Lagrange et Clotilde Pivin.